Salut Loïc Tassé, comment qu'il va?
Il va très bien.
Très bien, très bien. Alors, écoute, là, on sait plus trop. Là, le sommet entre Trump et Kim Jong-un va peut-être finalement avoir lieu. On a l'impression là,
je pense que ça va arriver. Le feuilleton continue.
Oui.
C'est plein de rebondissements. C'est comme une série télévisée à la Trump, quoi.
C'est vrai que c'est comme une série de télé-réalité.
Oui, oui. Alors aujourd'hui, on apprend que, attention, ils seront peut-être pas tout seuls, Kim Jong-un et Donald Trump, dans la même pièce. Ce qui est peut-être une bonne chose entre toi et moi. Je suis pas sûr qu'il faille laisser ces deux-là tout seuls. Il y aurait le président sud-coréen qui se joindrait peut-être à eux.
Je serais rassuré, moi.
Moi aussi, ça me rassurerait. Mais c'est pas sûr. C'est un haut fonctionnaire de Corée du Sud qui dit ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de rencontres en ce moment qui ont lieu un peu partout. Il y a une équipe qui est à Singapour qui va rencontrer une équipe nord-coréenne à Singapour, une équipe américaine. Il y a eu à la frontière, à Panmunjom, des négociations entre Sung Kim, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud et qui a participé en 2008 aux négociations sur le nucléaire, et Choi Sang-hui, qui est la vice-ministre des Affaires étrangères. Tu sais, celle qui a dit de Pence que c'était un imbécile politique.
La vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord.
De la Corée du Nord, oui. Il y a aussi, semble-t-il, une équipe coréenne, nord-coréenne, qui est ici aux États-Unis.
Ah, enfin, ici aux États-Unis. Je pensais que t'étais pour dire ici à Montréal.
Non, ici,
en Amérique, oui.
Trump a dit pas très loin d'ici. Alors, peut-être que c'est relativement parlant. Peut-être
mais je les vois passer justement dans le corridor.
Là, ça m'étonnerait un peu. Bref, ce qui est intéressant, et ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que encore des hauts fonctionnaires sud-coréens qui ont parlé sous le sceau de la confidentialité à des journalistes, qui disent, écoutez, ce qui est au cœur des négociations, c'est deux choses. Bien entendu, la dénucléarisation, mais aussi le maintien du régime nord-coréen. Et tu sais, on en parlait la semaine dernière, c'était notre hypothèse.
Oui.
Ben, il semble que notre hypothèse soit pas mal vérifiée et que ce soit ça, vraiment, qui soit au cœur des négociations et qui achoppe en Corée du Nord.
Moi, je vais te dire, je vois pas pourquoi Kim Jong-un renoncerait à l'arme nucléaire, parce que c'est la meilleure garantie qu'il a de se maintenir au régime et d'assurer la pérennité de son régime. Mais je pense que le cœur de cet éventuel sommet, là, c'est quelle garantie de sécurité se satisferait-il, de quelle garantie se satisferait-il pour accepter de renoncer à l'arme nucléaire. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir ou que les Américains, qu'est-ce qu'ils pourraient lui offrir qui l'assurerait de rester au pouvoir et de maintenir un régime communiste en Corée du Nord?
Rester au pouvoir, c'est une chose. Puis ça, je pense que les Américains peuvent l'aider là-dessus. En termes militaires, sa sécurité, mais ça s'appelle Xi Jinping, ça s'appelle la Chine. La Chine a déjà dit qu'elle ne tolérerait pas que les États-Unis attaquent la Corée du Nord.
Oui, mais tu peux pas mettre ça dans un traité entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Non, mais c'est ça, sa vraie garantie de sécurité militaire, c'est la Chine. Donc, effectivement, le cœur des négociations, c'est qu'est-ce qui va arriver aux dirigeants nord-coréens? Qu'est-ce qu'ils vont faire s'il y a une ouverture, si les Nord-Coréens se mettent à voyager? Qu'est-ce qui va arriver à tout ce bon monde-là? Qu'est-ce qui va arriver au régime nord-coréen? Bonne chance s'ils veulent rester au pouvoir après ça, parce que moi, j'ai pas l'impression que les Nord-Coréens vont tolérer très longtemps cette bande de rigolos au pouvoir, qui sont pas très rigolos d'ailleurs entre toi et moi.
Non, pas trop. Bon, alors, parlons de pouvoir.
Rigolos encore.
Oui, l'Italie, c'est le bordel total.
Total. Tu sais, je voulais t'en parler la semaine dernière, j'avais pas eu le temps de t'en parler parce que c'était intéressant. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue s'étaient mis d'accord, ils avaient négocié, ils s'étaient trouvé un premier ministre, Giuseppe Conte, encore pas trop connu, un juriste d'une cinquantaine d'années. Le président avait dit oui, le président de l'Italie avait dit très bien, ça marche, il peut être premier ministre. Choisissez vos candidats, monsieur le premier ministre. Alors, il est revenu avec toute une liste de candidats, mais il y en a un que le président n'a pas accepté. C'est Paolo Savona, 81 ans, qui est très anti-euro. Et le président dit « Non, je ne veux pas de lui ». Alors là-dessus, le premier ministre Giuseppe Conte a dit « Très bien, je démissionne ». Il est parti.
Ça n'a pas d'allure. Alors, tu ne peux pas gouverner un pays
de cette façon-là. Alors le président a dit « Très bien, dans ce cas-là, moi je vais nommer des gens ». Et il a dit « Dans l'intérim, je vais nommer comme ministre des Finances, comme premier ministre, pardon, Carlo Cortarelli, 64 ans ». Mais ce gars-là, Carlo Cortarelli, c'est un ancien haut responsable du FMI. C'est lui qui est à l'origine des mesures d'austérité en Italie en 2013-2014. Ben. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, a favorisé dans toute la montée du parti 5 étoiles.
dire, le président qui nomme ce bonhomme-là puis qui s'en va en élection, ça va favoriser les antisystèmes.
Écoute,
à nouveau.
Ça m'apparaît clair. S'ils jouent bien leurs cartes, ces gens-là
vont sortir renforcés.
Ben, il me semble que oui. Mais en tout cas, comme tu dis, c'est le bordel. Et c'est ça qui arrive quand tu as une proportionnelle aussi comme tu en as en Italie, qui est totale.
Alors, une minute chacun. D'abord, le fils du fondateur de la grande firme Dassault qui fabrique notamment les Mirage et celui qu'ils vendent encore là.
Les Rafales.
Les Rafales, voilà.
Les Rafales. Alors, il vient de mourir à 93 ans. Il était dans son bureau. Il a fait une défaillance cardiaque. Il travaillait mais comme un dingue, ce gars-là.
Il avait quoi en plus?
93 ans.
Incroyable.
Il était sénateur aussi. Il était président d'une équipe de football et surtout donc à la tête de ce groupe qui est non seulement un groupe aéronautique, qui est le dernier groupe aéronautique familial, mais il était aussi à la tête du Figaro et de toutes les entreprises
médiatiques. C'est la famille Dassault qui est propriétaire
de ça. C'est la famille Dassault qui est propriétaire de ça. Lui-même avait une fortune familiale de 26 milliards de dollars américains. Et on dit, j'ai pas eu le temps de vérifier vraiment tous les chiffres parce que ça vient de tomber, que quand même, il avait eu beaucoup de succès depuis qu'il était à la tête de Dassault, je pense que c'est début des années 90, qu'il avait multiplié le patrimoine de la compagnie par 20. Le chiffre d'affaires, donc de la compagnie par 20.
Pas sûr que c'était avec des ventes de chasseurs, par contre, parce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à vendre beaucoup.
Oui, mais ils en ont fabriqué, ils ont été subventionnés, il y a de la recherche et du développement, puis ils vendaient d'autres armes aussi. Il y a plein de choses qu'ils vendaient, mais c'est vrai, il n'y avait pas que ça dans ce groupe-là.
Bon,
on suivra un petit peu ça dans les jours qui viennent.
Oui, mais absolument. Et parlant de gros sous, en terminant...
C'est une nouvelle pour toi qui est amateur de bon vin.
Oui.
Alors, il y a une bouteille de vin qui, à un encan, a atteint la somme de 120 000 dollars US aux enchères. Il s'agit d'une bouteille de vin jaune, qui est un vin de paille du Jura. La bouteille date de 1774. Et dans le même encan, il y a deux bouteilles similaires qui ont été vendues pour un peu moins de 90 000 dollars américains chacune. Et les acheteurs sont canadiens.
Je
me demandais si c'était pas toi.
C'est pas moi d'ailleurs.
Amateur,
J'étais curieux de savoir c'était quoi du vin jaune. Et là, on m'a apporté un peu d'informations sur le vin jaune. Tu savais c'était quoi toi le vin jaune?
Vaguement, je pense que c'est un vin du Jura.
Oui, un vin du Jura.
Je en avoir bu une fois.
Un vin de voile, vin sec de longue garde. Ah, exclusivement issu du cépage savagnin, G-N-I-N, savagnin. L'une de ses particularités, c'est d'être embouteillé en clavelin.
C'est quoi ça?
Je sais pas.
Bon, ben faut que t'invites quelqu'un pour qu'on nous explique le vin jaune et le clavelin.
On a atteint.
Et qu'il nous apporte quelques échantillons aussi pour qu'on puisse en juger nous-mêmes et le décrire.
En tout cas, j'espère qu'il est bon parce qu'à 120 000 dollars US.
Non, ça se boit plus normalement. Ce sont des vins de collection.
Mais voyons.
C'est rare que ça reste aussi bon après autant de sang. Si un vin, c'est comme un homme, hein. Ça a une vie. Ça atteint son maximum vers la cinquantaine. Puis ensuite, ça baisse.
Embarque-toi pas là-dedans. Cette émission est bien faite parce qu'on a justement, après la pause, Yves Mailloux qui va nous parler vin parce que la Société des alcools vient d'augmenter le prix de ses bouteilles et on va en profiter en même temps pour lui demander quelques informations sur le vin jaune et ce que c'est que le clavelin. Donc, merci pour l'information et on aura les réponses dans un instant après la pause.